France Inter. Secret d'info. Mathieu Aron.
Thomas veut quitter le domicile parental. Sophia vit seule avec son fils et connaît des fins de mois difficiles. Janine a une petite retraite et cherche un logement plus adapté. Kader souhaiterait déménager en centre-ville pour se rapprocher de son travail. Construire des HLM, c'est donc agir pour la mixité et le vivre ensemble dans nos quartiers et dans nos villes. C'est construire un avenir plus accessible, plus solidaire, plus durable pour Thomas, Sophia, Janine, Kader et des centaines de milliers de personnes qui peinent à se loger au prix du marché.
Construire des HLM, c'est agir pour le vivre ensemble dans nos quartiers. Belle déclaration, beau programme figurant dans cette publicité de l'Union sociale pour l'habitat. Mais la réalité est parfois bien différente. En Ile-de-France, plus de 500 000 foyers sont en attente d'un logement. Obtenir une HLM est un vrai parcours du combattant. Et surtout, on peut se demander si cet habitat social est encore vraiment social. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Mathieu.
Vous avez enquêté pour Secret d'Info sur ce sujet.
Et pour débuter cette enquête, nous partons à Clamart. C'est une ville symbole quand on parle de passe-droit pour avoir une HLM. Son ancien maire, le socialiste Philippe Kaltenbach, a été condamné à un an de prison ferme pour avoir reçu de l'argent en échange de la promesse d'un appartement. Philippe Kaltenbach dément, il crie au complot, mais bon... Lorsqu'il était maire, entre 2001 et 2014, il valait mieux avoir la bonne carte pour obtenir un logement. C'est en tout cas ce que m'a raconté Claude Omazia. Elle a longtemps été présidente d'une association de locataires.
Dans mon immeuble, je sais qu'il y a toute une famille qui est arrivée ici parce qu'elle avait adhéré au PS à cette époque-là. On savait très bien que les personnes qui cotisaient au PS avaient plus de chances d'avoir l'attribution d'un logement que d'autres. On sait quand une personne adhère dans un parti ou quand elle a voté ou si elle n'a pas voté. Là aussi, tous les partis politiques de droite ou de gauche regardent qui a voté ou qui n'a pas voté. Il faut mieux aller voter. J'étais la première à conseiller à des personnes d'aller voter et d'adhérer au PS tout en étant indignée. Mais ça s'est toujours fait.
Philippe Kaltenbach n'est plus maire de Clamart aujourd'hui. La ville est passée à droite aux dernières municipales. Est-ce que ça a changé quelque chose?
Les attributions de logements sociaux ont évidemment été au cœur de la campagne municipale 2014 à Clamart. Le nouveau maire, les Républicains, Jean-Didier Berger, a promis de mettre de l'ordre dans la maison Clamart Habitat. Alors il met bien en place actuellement de nouvelles méthodes. Mais dans le même temps, il a exclu l'opposition de la commission d'attribution. Du coup, Vanessa Jérôme, qui était jusqu'à il y a peu élue écologiste à Clamart, a de gros doutes.
Je pense que le nouveau maire ne prend pas le risque de faire prêtrier par son cabinet. La commission d'attribution n'a plus la forme qu'elle avait. Donc sur la méthode, oui, les choses ont changé. Mais sur les effets concrets qui consisteraient à faire en sorte que le clientélisme n'existe plus, eh bien, ma foi, on n'en sait rien.
En tout cas, ce que l'on comprend à travers ces exemples, c'est que maire de droite ou maire de gauche, ces élus gardent en tout cas jalousement le pouvoir qu'ils ont de distribuer ces logements sociaux.
Oui, parce qu'en attribuant un logement, ils font un cadeau royal. La Cour des comptes a fait le calcul. À Paris, en moyenne, dans le privé, un 3 pièces de 70 mètres carrés va coûter 1500 euros par mois. Le même dans le parc social, au maximum 900 euros. Sur 35 ans, la différence, c'est 250 000 euros. Un élu parisien m'a raconté que quand il attribue un logement, il dit au bénéficiaire que c'est comme s'il avait gagné au loto.
Bon, l'image est assez juste, effectivement. On reviendra à Paris tout à l'heure, mais en attendant, Sylvain Tronchet, on repart dans les Hauts-de-Seine à Puteaux cette fois-ci.
Puteaux, ville de droite. L'office municipal HLM possède et donc attribue 25% des logements de la commune. C'est énorme. L'office a souvent été critiqué pour sa gestion clientéliste des attributions. Le fameux « je vous donne un logement, votez pour moi ». Christophe Grébert est conseiller municipal d'opposition Modem à Puteaux et il dénonce inlassablement un système clanique.
À Puteaux, ça fait près d'un demi-siècle que c'est la même famille qui attribue les logements sociaux. Il y a eu le père, Charles Sicadireno, puis Joël Sicadireno, sa fille, et derrière suit le fils ou le petit-fils, Vincent Franqui, qui est maire adjoint chargé du logement, justement, et donc qui est déjà en piste pour directement attribuer à son tour des logements à des familles qui, en retour, espère-t-il, voteront pour lui lorsqu'il se présentera lui-même maire de Puteaux à la suite de sa mère et de son grand-père.
Autre dérive dénoncée par Christophe Grébert, il y a le cas de ses 17 conseillers municipaux, 17, la moitié de la majorité de droite, logés dans le parc social de la ville, alors que certains sont professeurs d'université, cadres supérieurs, bref, pas vraiment nécessiteux.
Ça semble quand même assez incroyable hein, ce que vous nous racontez. Dites-moi, ils les ont obtenus légalement, ces logements ?
Alors, j'ai demandé des explications à la ville de Puteaux, j'attends encore la réponse. Mais il est très probable qu'ils les aient obtenus en respectant parfaitement les règles. Il faut savoir que le plafond de ressources pour avoir droit au logement social sur Paris et la Petite Couronne, donc Puteaux, pour un couple avec deux enfants est de 5 860 euros par mois. Au moment où ils ont eu ce logement, donc, il est possible qu'ils aient été dans les clous.
Question avec de tels plafonds hein, s'élevant jusqu'à près de 6 000 euros, est-ce qu'on peut encore parler de logement social ?
Eh bien, c'est tout le problème, car compte tenu effectivement de ces plafonds, comme 7 franciliens sur 10 peuvent légalement se voir attribuer un logement social, les élus peuvent décider de privilégier des gens plus ou moins fortunés. Et pour revenir à Puteaux, les municipalités successives ont clairement choisi de favoriser les classes moyennes supérieures.
Au point que l'office municipal HLM de Puteaux s'est fait épingler.
Et d'ailleurs, écoutez cet extrait d'un rapport de l'inspection du logement social.
L'office ne loge pas une population aux caractéristiques sociales très prononcées. Et son retrait volontaire des politiques de prise en charge des publics prioritaires fait qu'il n'assure pas pleinement son rôle de bailleur social.
En clair, à Puteaux, les considérations politiques ont bien prévalu sur des critères sociaux.
Et pour s'en convaincre, il y a un indicateur qui ne trompe pas. On prend le nombre de personnes qui touchent des aides pour payer leur loyer dans les HLM. Vous savez, les APL, l'ALS. On pourrait se dire, a priori, tout le monde ou presque touche ces aides en HLM. Eh bien écoutez Christophe Grébert, l'élu Modem, à Puteaux, ça n'est pas vraiment ça.
80% des habitants des HLM de Puteaux ne sont pas éligibles aux aides au logement. La moyenne nationale pour le logement social est de 50%. C'est déjà un taux élevé. C'est-à-dire que, imaginez qu'au niveau national, 50% des gens qui habitent des HLM ne sont pas éligibles aux aides au logement. Ça pose déjà question. Ce taux monte à 80%. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui habitent dans les logements sociaux à Puteaux sont considérés, selon les critères étatiques, comme pouvant vivre dans du logement privé, accéder au logement privé. Voilà.
Et il n'y a pas qu'à Puteaux, à Issy-les-Moulineaux également. L'office a été épinglé pour ce type de dérive. C'est particulièrement vrai dans les Hauts-de-Seine. Hein. C'est évidemment moins courant dans les départements populaires comme la Seine-Saint-Denis.
Alors on a entendu, c'est impressionnant à Puteaux. Mais si l'on écoute bien hein, Christophe Grébert, cette moyenne nationale de 50% de locataires non éligibles aux aides au logement, mais bénéficiant quand même d'une HLM, est tout de même assez stupéfiante.
Et c'est une conséquence de la gestion clientéliste de certains maires. Mais pas seulement. Les sociétés privées d'HLM, elles aussi ont tendance à favoriser les classes moyennes, tout simplement parce qu'elles leur rapportent plus d'argent, qu'elles payent mieux leur loyer et que cela permet au système de fonctionner.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de gendarmes dans ce secteur pour faire respecter la loi ?
Alors c'est très compliqué et délicat. D'abord parce que le mouvement HLM est très puissant. Les offices publics, les sociétés d'HLM n'ont pas forcément les mêmes intérêts, mais elles sont d'accord sur une chose, c'est que le linge sale se lave en famille. C'est ce que m'a raconté François Carlier. Il est le délégué général de l'association de consommateurs CLCV.
Les affaires du logement social se règlent dans la maison du logement social. C'est un secteur qui mène une politique sociale très souhaitable et très souhaitée et qui donc, à ce titre, considère qu'il fait le bien. Et donc, il estime que les problèmes qu'il peut avoir par ailleurs ne devraient pas faire l'objet de débats parce que si ça fait l'objet de débats, on risque de casser le logement social.
Cela dit, Sylvain Tronchet, un coin a récemment été enfoncé dans cette opacité, hein, ce manque de transparence que nous dénonçait à l'instant cet associatif.
Oui, après des années de combat, l'association CLCV a obtenu que soient rendus publics les rapports de l'inspection du logement social, dont on a entendu un extrait tout à l'heure. On a donc découvert les salaires indus de certains dirigeants, la gestion hasardeuse de certains organismes ou le mauvais entretien des immeubles.
Un progrès donc, et autre progrès, la ville de Paris, depuis l'automne 2014, tente de moraliser tout ça.
Paris a mis en place un système qui s'appelle le scoring, ou en bon français, la cotation. En clair, on attribue des points aux demandeurs en fonction de critères définis à l'avance et connus par tous. Par exemple, si vous êtes logé chez vos parents, cela vaut 1 point, alors que si vous êtes dans un camping, c'est 3 points. Vous avez des problèmes de santé, plus 2 points, vous divorcez, plus 4. Pour chaque logement, la machine sort les 5 dossiers qui ont obtenu le plus de points et ensuite les élus choisissent.
Progrès, comme on l'a dit, il faut dire, Sylvain, qu'on partait de très loin dans la capitale.
Vrai, on ne compte plus le nombre de scandales qui ont agité la vie politique parisienne autour d'attributions douteuses de logements. Et de nombreux politiques ont été épinglés pour ce genre d'affaires. Jean-Pierre Chevènement avait 2 logements sociaux. Alain Juppé avait fait baisser le loyer de son fils. Autre fils, celui de Jean Tiberi, Dominique, bénéficiait lui aussi d'un très grand logement social. La capitale a enchaîné les scandales immobiliers. La nouvelle maire, la socialiste Anne Hidalgo, a décidé qu'il fallait que ça s'arrête.
Et pour ce faire, elle a choisi d'ouvrir au public les commissions d'attribution.
Oui, et j'ai pu assister à l'une d'entre elles. Les élus de tous les bords, des représentants d'associations, voient donc passer des dossiers tous anonymes.
Je voulais que le A motive des violences familiales, hein, c'est ce qui fait son score, le A.
Bon, mais voilà. Moi, je suis à ce moment-là le A parce que violence familiale et toute petite surface, le B parce qu'il attend depuis 11 ans, et le C qui est dans une petite surface.
Alors, pour Yann Brossa, l'adjoint au logement de la ville de Paris, la cotation, c'est la garantie absolue.
Les demandes, quand elles sont soumises aux membres de la commission, sont totalement anonymes. Et donc, quand nous désignons une personne sur un logement, nous ne connaissons pas son nom, et je ne connais évidemment pas le nom des demandeurs, puisqu'ils ne figurent pas sur le dossier qui passe en commission. Et par conséquent, je pense qu'aujourd'hui, nous avons mis en place tous les garde-fous pour éviter les abus.
Il y a donc des Parisiennes ou des Parisiens qui assistent à ces commissions et vous en avez rencontré 2.
Armel et Safia, elles sont ou ont été demandeuses de logement social et elles voulaient voir comment cela se passe.
Je trouve ça très bien qu'on puisse voir comment les élus travaillent. Moi, ça me redonne confiance, oui. Effectivement, ça me redonne confiance dans la façon dont sont traités. C'est vraiment plutôt bien géré avec des critères tout à fait cohérents. Donc, ça me redonne de l'espoir là-dessus.
Je connaissais des personnes qui étaient arrivées sur Paris bien après moi, qui ont eu des logements. Donc j'avais de très gros doutes et j'ai entendu beaucoup parler de pots de vin. Je connais personnellement 5-6 personnes qui m'ont dit avoir versé des pots de vin, 5 à 6 000 euros pour avoir un appartement.
Un mot peut-être sur ce chiffre de 5 000 euros. Évidemment, c'est invérifiable, personne ne s'en vante, mais on me l'a cité plusieurs fois comme étant un tarif qui a pu ou qui serait un tarif demandé par quelques rares élus en Ile-de-France.
Alors, pour justement éviter la suspicion, pourquoi est-ce qu'on ne généralise pas ce système de cotation à toute la France ? Ça semble pourtant assez évident.
Oui, mais des élus résistent et disent que même avec cela, on peut tricher. Certains m'ont parlé de signes cabalistiques sur les dossiers anonymes qui permettraient en fait de savoir qui il faut choisir. Et à Paris, tous les maires des arrondissements de droite qui ont un quota d'attribution de logements sociaux refusent de mettre en place cette cotation. Écoutez Jean-François Le Garret, le maire Les Républicains du premier.
Si vraiment le scoring est parfaitement objectif, dans le meilleur des mondes et de la meilleure des manières, dans ce cas-là, il faut supprimer les commissions d'attribution et mettre en bas de chaque mairie un distributeur automatique de logements. Vous entrez votre nom, votre âge, votre situation, et si vous avez le bon nombre de points, vous avez un logement ou vous n'en avez pas. Quand on assume ses responsabilités en tant qu'élu, on ne se dissimule pas derrière ce genre de, je dirais, de subterfuge, qu'il s'agisse de l'attribution de points ou qu'il s'agisse d'un prétendu anonymat.
Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de système parfait. Hein. Mais la cotation, c'est tout de même un pas vers plus d'objectivité.
Et pourtant, Sylvain, il faut le dire, très peu de villes pour l'instant l'ont adopté.
En région parisienne, certaines vont s'y mettre, dont Clamart, dont on parlait en début d'émission. Cécile Duflot, l'ancienne ministre du Logement, aurait bien aimé l'imposer à tout le monde quand elle a fait voter la loi Allure, mais elle a dû modérer ses ambitions, elle l'admet.
C'est un sujet tellement brûlant, sur lequel les élus sont tellement sensibles, il fallait qu'il y ait un consensus pour pouvoir faire adopter ce consensus, même si peut-être que moi, j'aurais voulu qu'on aille plus loin sur certains points, mais tous ces points, on aurait pu aller plus loin, on les a ouverts sous forme de possibilités d'expérimentation.
Bon, on a compris. En réalité, Cécile Duflot a dû faire marche arrière, mais elle n'est pas restée, il faut être honnête, totalement sans rien faire.
Non, elle a contourné le problème. La loi Allure dit que, à partir du 1er janvier 2017, tous les logements sociaux des offices municipaux seront attribués non plus au niveau des villes, mais des intercommunalités, de façon à éviter qu'il y ait trop de favoritisme et à faciliter le contrôle démocratique. Mais certains maires, qui ne veulent pas lâcher leurs logements sociaux, organisent le contournement de la loi. Écoutez ce que Patrick Balkany vient de faire à Levallois, Anne Genifort et son opposante socialiste.
À Levallois, pour contourner en fait cette mise en commun des offices publics de l'habitat communaux, le maire a décidé de faire entrer tout le patrimoine de l'office public de l'habitat de Levallois dans une SEM, une société d'économie mixte, qui est détenu majoritairement par la ville, donc une société de droit privé qui s'appelle Levallois Habitat, de manière à ne pas mettre en commun nos logements sociaux, c'est tant la politique de construction, les choix de construction, que les attributions dont on sait dans nos villes à quel point elles sont des leviers électoraux importants.
C'est quand même très fort. Mais là encore, soyons honnêtes, il n'y a pas qu'à Levallois qu'on ne veut pas lâcher ses logements sociaux.
Non, c'est aussi le cas de Clichy qui est en train de les transférer au département, détenu par des amis politiques. Et puis il n'y a pas qu'à droite qu'on traîne des pieds. Des maires de gauche aussi, dans le Val-de-Marne, en Seine-Saint-Denis, ne voient pas d'un bon œil ce pouvoir leur échapper.
C'est quand même un petit peu désespérant tout ce que vous nous racontez. Est-ce que ça veut dire que jamais on arrivera à moraliser totalement les attributions de logements sociaux ?
C'est ce que pensent certains spécialistes du secteur, comme Jean Levin, c'est l'ancien maire de centre-gauche de Chaville. Il a bien connu le problème, il en a même fait un livre.
L'attribution en elle-même n'est pas le vrai sujet, parce que on ne trouvera jamais un système parfait, transparent, etc. Est-ce qu'un SDF qui est au canal de Saint-Martin, couvert par une association XY, est plus légitime qu'une femme battue dans la rue avec ses trois gosses ? Est-ce que vous allez résoudre ça avec des critères ? Par contre, le principe de laisser indéfiniment à la même place pendant 30-35 ans, les gens, quelle que soit l'évolution de leurs revenus et de leurs besoins, car c'est ça qui se passe quand même dans les zones de tension, c'est totalement, à mon avis, contraire au bon sens et à la justice les plus élémentaires.
Attendez, si j'ai bien entendu ce que vient de nous raconter cet ancien maire, ça veut dire qu'on ne quitte jamais son HLM une fois qu'on l'a obtenu ?
Alors, la loi, en théorie, autorise les bailleurs sociaux à expulser les locataires dont les revenus ont augmenté jusqu'à deux fois le plafond. Mais ça, c'est en théorie. Dans les faits, il ne se passe rien. D'abord, parce que la loi dit que si vous avez plus de 65 ans, on ne peut pas vous expulser pour cette raison. Et puis, les bailleurs rechignent à renvoyer des gens qui sont des bons payeurs, par définition. C'est comme cela qu'on se retrouve avec des situations que l'inspection du logement social a dénoncées dans un rapport qui concerne France Habitation, un bailleur parisien.
Parmi les situations les plus emblématiques, voici quelques exemples. Une personne seule louait 17 mètres carrés dans le 15e arrondissement de Paris avec des revenus de 108 000 euros, soit 384% de dépassement. Un couple louait 82 mètres carrés dans le 20e arrondissement avec des revenus de 118 000 euros. Un couple louait 35 mètres carrés dans le 5e arrondissement avec des revenus de 100 000 euros par an, soit un dépassement de 200%.
Dans les situations qu'on vient d'entendre, la loi ne prévoit pas d'imposer quand même aux locataires des suppléments de loyer.
Si, c'est prévu. Cela s'appelle des suppléments de loyer de solidarité. Pour autant, souvent, ils ne sont pas appliqués. Et s'ils le sont, ça ne change pas grand-chose. Le logement que ces locataires occupent reste nettement plus intéressant que le marché privé.
Et à cela, Sylvain Tronchet s'ajoute encore autre chose. C'est un choix politique clairement assumé, celui de privilégier les classes moyennes supérieures.
En effet, il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsque l'on construit des logements sociaux en région parisienne, on favorise de plus en plus les logements dits PLS, ceux qui sont réservés pour la classe moyenne, moyenne plus, au détriment des PLAI qui, eux, sont réservés aux plus pauvres. La Cour des comptes l'a dénoncé. Depuis 2005, le nombre de PLAI construits a quasiment été divisé par deux, quand le nombre de PLS, lui, a été multiplié par deux. Christophe Grébert, l'élu MoDem de Puteaux, dénonce donc un système devenu absurde.
Le politique a trouvé le moyen d'aider la classe moyenne à se loger à pas cher en leur attribuant du logement social, au nom de la mixité sociale. C'est-à-dire qu'on fait de la mixité sociale en mettant des riches dans du logement HLM, ce qui est quand même assez extraordinaire. Si ça n'écartait pas les pauvres de ce logement social, ça ne poserait pas de problème, mais la réalité est celle-là, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on fait du logement social pour la classe moyenne et la classe moyenne supérieure, et non pas pour ceux qui en ont vraiment besoin, ceux qui n'ont vraiment pas les moyens financiers de se loger correctement.
Des riches dans des logements pour pauvres, il fallait y penser, d'où cette question que nous posions en début d'émission. Les logements sociaux sont-ils toujours vraiment sociaux ?
C'est une question totalement légitime, Mathieu. Et d'ailleurs, des responsables politiques proposent aujourd'hui de changer le système. Certains, comme Hervé Mariton, proposent d'arrêter de subventionner le logement, mais d'apporter une aide directe aux personnes, comme en Allemagne. Et d'autres préconisent la fin des catégories de logements sociaux et de les réserver exclusivement aux plus pauvres.
Merci beaucoup, Sylvain Tronchet, pour cette enquête qui est à retrouver sur notre site franceinter.fr et sur la page Facebook de Secret d'Info.